Radio Okapi.
Le journal grâce à Mzati.
Meurtre des élèves dans les territoires de Niragongo Nord Kivu et au lycée Madame de Sévigné de Kinshasa. La ministre de l'Éducation nationale condamne et soutient la poursuite des enquêtes pour établir les responsabilités. Le gouvernement congolais s'en va en guerre contre la fraude aux frontières. Décision prise hier au cours de la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques présidé par la première ministre. Notre invité est le président du site des déplacés de Don Bosco au nord de Goma. Justin Kamana parle des difficultés d'accès à l'eau potable depuis 2 mois dans ces sites. Une situation qui expose les déplacés à l'épidémie de la variole des singes. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour. Violence au sein des écoles en RDC. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté est profondément consternée par des faits qu'elle juge odieux qui se sont déroulés au sein des établissements d'enseignement public et privé, notamment au Nord Kivu et à Kinshasa. Dans un communiqué officiel dont une copie est parvenue à Radio Okapi ce vendredi, Raissa Malou soutient les enquêtes afin que toute la lumière soit faite. D'autres détails avec vous, Jacques-Yves Molima.
Le meurtre d'un élève adolescent par un homme armé dans le territoire de Niragongo, Nord Kivu d'une part, et d'autre part le décès d'un élève de 8e année poignardé au lycée Madame de Sévigné à Limété et d'un autre grièvement blessé à la suite d'un acte de violence perpétré par leurs camarades de classe ici à Kinshasa, laisse sans voix Madame Raissa Malou. La ministre d'État, ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté ne peut s'expliquer un tel niveau de violence en milieu scolaire où les enfants vont pour apprendre les valeurs qui fondent la société et les relations humaines, atteste le communiqué. Pour Raissa Malou, je le cite, « Les écoles doivent être des lieux sûrs pour les élèves, les enseignants et les personnels administratifs. Nous ne pouvons tolérer aucune violence, qu'elle soit interne ou externe, aux établissements. » Fin de citation. Enfin, tout en présentant ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, Madame la ministre d'État soutient la poursuite des enquêtes en cours et que les responsabilités soient clairement établies afin de permettre aux instances compétentes de prendre les mesures qui s'impose.
Jacques-Yves Molima Aouta. Pendant ce temps, la situation est restée tendue dans la matinée de ce vendredi dans la ville de Beni au Nord Kivu. C'est après l'assassinat par balle la nuit dernière d'un taximène moto par des inconnus. Sitôt ce matin, ses collègues ont déclenché une manifestation spontanée du côté de la mairie de la ville pour protester contre cet assassinat. La police est intervenue pour contenir les manifestants en tirant des coups de feu en l'air, créant ainsi une énorme panique dans le quartier. Des explications avec André Kitenge.
Des témoins affirment que le jeune taximène moto a été abattu par des inconnus peu avant minuit, non loin d'une église catholique au quartier Biaoutou dans la commune de Béou. Cette situation a provoqué la colère des conducteurs de moto-taxi et d'autres jeunes de la ville. Du coup, des taximènes moto sont descendus dans plusieurs artères de la ville pour protester contre cet énième cas d'assassinat par balle dans la ville. De nombreuses voies ont été barricadées avec des pierres par des manifestants, scandant des slogans hostiles aux soldats des FRDC. Cette situation a causé la paralysie de certaines activités socio-économiques dans une partie de la ville cet avant-midi. Selon le porte-parole de la police dans la ville de Beni, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les manifestants et dégager les voies barricadées. Pendant ce temps, les forces de l'ordre tentent de calmer la situation, mais les habitants craignent que les violences ne s'intensifient dans les prochaines heures. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, en plus bref, une accalmie règne ce vendredi dans la zone de Buremana, dans la chefferie de Baoundé, territoire de Masisi. Cette zone était le théâtre des violents combats toute la journée d'hier, opposant les rebelles du M23 à l'armée congolaise et ses alliés, les volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo. Ces combats étaient localisés autour des collines Ndumba et Chacha. Certaines sources de la zone indiquent que quelques positions des rebelles ont été détruites par les Wazalendo, sans pour autant les reconquérir. Par ailleurs, au moins 3 bombes de mortiers sont tombées dans les environs de Buremana et Minova sans faire de victimes. Nous l'avons dit au sommaire, le gouvernement s'est dit satisfait de la baisse de l'inflation constatée sur le terrain et décide d'intensifier la lutte contre la fraude aux frontières. C'est ce qui ressort de la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques. Elle s'est tenue hier à la primature sous la conduite de la première ministre Judith Suminois. Le compte rendu de cette rencontre avec Guylaine Nyembo, vice-premier ministre et ministre du Plan, dans cet extrait proposé par Pele Kipela Mondo.
Nous avons constaté que l'inflation continue à baisser pour la quatrième semaine consécutive, mais il y a aussi le franc congolais qui se consolide. À côté de ça, il y a la nouvelle sur la croissance qui s'affirme autour des 6%, ce qui est une bonne nouvelle. Mais comme vous pouvez le comprendre, nous n'allons pas nous satisfaire de ces résultats. Nous continuons les efforts, essentiellement sur la discipline budgétaire, mais aussi sur les grandes questions d'encadrement structurel, la diversification notamment. Et puis, il y a les grands programmes que vous connaissez, des infrastructures, notre plan quinquennal. Donc, tout cela pour permettre à notre pays d'avoir un environnement encore susceptible de favoriser les investissements dont nous avons besoin pour notre développement. Aujourd'hui, nous avons encore parlé de la grande question de fraude dans nos frontières. Donc, ça, c'est encore un grand chapitre que nous allons attaquer. Nous allons continuer à repousser la fraude pour nous permettre de poursuivre sur notre lancée. Le climat des affaires, il y a la feuille de route, une nouvelle qui est en phase de finalisation. Donc ça aussi, ça viendra renforcer toutes ces mesures qui vont nous permettre de faire encore de progrès.
Parlons de la clôture hier de la 8e édition d'Expo Béton, ici à Kinshasa. Pendant 4 jours, des voitures, des tracteurs, des maquettes, des immeubles et autres articles exposés, des agents des entreprises qui invitent les passants à visiter leurs stands et les panels. C'est en tout cas l'ambiance qui a régné au centre financier de Kinshasa. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette activité par différents panélistes. Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, est l'un des intervenants, s'est appesanti sur l'assainissement de la capitale. À cette occasion, il invite la population kinoise à la bonne gestion des déchets. John Chibwabwa nous en parle.
Les déchets canalisés sont une source de beaucoup de moyens pour la République. Déclaration de Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, à la clôture de la 8e édition d'Expo Béton.
Les déchets sont aussi une opportunité. Nous avons vu des solutions, là nous venons, où rien que par les déchets plastiques, on peut produire du textile, on peut produire de l'énergie. Les déchets canalisés sont une source de beaucoup de moyens que la République peut capter et aussi que l'économie peut générer. Vous comprenez ici que si nous gérons bien nos déchets, nous serons appelés non seulement à avoir une ville assainie, mais nous produisons aussi nos opportunités en termes d'affaires et nous améliorons aussi nos conditions de vie.
De son côté, le sénateur Jean Bamani Sassaïdi estime que l'assainissement de la ville viendra de Kinshasa elle-même.
L'assainissement ne viendra pas de Turquie ou bien de Chine ou quoi que ce soit. Je sais que le gouverneur a déjà commencé à prendre les choses en main. Les contrats qui étaient signés avec des entreprises, est-ce qu'on a besoin de trucs pour venir nous nettoyer les rues? Il y a des sociétés congolaises, monsieur le gouverneur, nous vous encourageons à travailler avec les entreprises.
Notons qu'après ces premières rondes d'Expo Béton 8e édition à Kinshasa, le second s'ouvre ce samedi 14 septembre à Matadi dans le Congo central.
Et dans la province du Maniema, le programme national de l'initiative du bassin du Congo est validé par l'ONGD Congo Action avec ses parties prenantes. Ce programme porte sur le rétablissement de l'équilibre entre la conservation des forêts tropicales, la souveraineté alimentaire et les droits de l'homme. On écoute le coordonnateur national de Congo Action, Raphaël Mutianga Kaloumé, au micro de Florence Kizalunga.
Nous venons d'effectuer un atelier de validation du programme national de l'initiative sur le bassin du Congo. Et ce programme porte sur rétablir l'équilibre contre la conservation des forêts tropicales, la souveraineté alimentaire et les droits de l'homme. Ce programme sera exécuté au mois de janvier 2025 avec appui du partenaire Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, AFSA, avec plusieurs de ses partenaires dans les pays du bassin du Congo. Nous avions effectué cet atelier aujourd'hui juste pour l'appropriation de la communauté et les parties prenantes dans les processus, améliorer les processus, identifier les besoins de la communauté. Et aussi, nous avions voulu à ce que nous puissions projeter quels sont vraiment les besoins adaptés pour la communauté de la province du Maniema. C'est un programme qui a 5 piliers qui sont répartis selon les activités. Tout ça, on vise tout simplement la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité et les espèces rares au niveau des 6 pays des bassins du Congo.
Dans l'actualité, sachez aussi que 45 abris des sinistrés de Calais au sud Kivu ont été détruits par une forte pluie accompagnée d'un vent violent dans le site Aman de Bouchouchou. Plusieurs autres dégâts matériels causés par la pluie du mercredi au jeudi sont signalés. Les sinistrés des sites environnants, y compris ceux de Tchahoué, sont en état d'alerte. Delphin Birimbi, président du cadre de concertation territoriale de la société civile de Calais, lance un cri d'alarme à travers le micro de Jean Kassami.
Une forte pluie diluvienne accompagnée de vents violents s'est abattue sur une partie du territoire de Calais la nuit du mercredi 11 jusqu'à la matinée du jeudi 12 septembre 2024, étant à la base de la destruction de plus de 50 abris de sinistrés à Katachola et dans le sud de Mouchonezo. Nous demandons au gouvernement avec ses différents partenaires de songer à venir en aide à cette catégorie de la population et mettre en place des stratégies pour des solutions à la question de la délocalisation définitive pour les sinistrés qui n'ont jamais eu leur site de la délocalisation définitive.
Notez aussi cette nouvelle en Ituri. À Tchomia, à 60 km au sud-est de Bounia, une centaine de jeunes à risque, dont 50 femmes vulnérables, bénéficient depuis 3 mois d'une formation sur l'aquaculture grâce à un projet de la MONUSCO. Selon le réseau des associations pour le développement durable, RAD, qui exécute ces projets, l'objectif est de permettre à ces jeunes d'avoir une occupation rentable pour se mettre à l'abri des tentations des groupes armés et du banditisme. Martial Kizabiamungu a visité les lieux des fabrications des cages flottantes pour l'insémination artificielle des alevins. Voici son reportage.
Nous sommes devant le lac Albert et le midi sous un soleil accablant. Des femmes et des hommes habillés en salopettes, casquettes de protection sur la tête apprennent différentes techniques d'aquaculture, dénutrition, halieutique pour les alevins améliorés. Claude Ouyergui, l'un des bénéficiaires, salue cette initiative de la MONUSCO qui, selon lui, leur permettra de trouver les moyens financiers pour servir à leurs besoins.
Merci à la MONUSCO pour ce travail bénéfique pour nos enfants. Personnellement, j'étais chômeur et maintenant, j'ai un travail qui va aider ma famille.
Chaque cage mesure 5 mètres carrés pour contenir 12 000 alevins monosexes. C'est pour permettre l'accroissement rapide des poissons sans étouffement. Florent Zama, responsable de l'ASBEL RAD, qui exécute les projets, parle du fonctionnement de ces cages.
Nous aurons une cage multiplicateur des alevins. Dans les cages, il y aura des filets.
D'une valeur de 99 000 dollars américains, ces projets servent une réponse au relèvement communautaire, mais aussi une contribution à la stabilisation de la zone de Tchoumia à travers l'encadrement des jeunes à risque et femmes vulnérables victimes de violences des groupes armés. Des retours de Tchoumia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Merci à vous, Martial Kizabiamungu, pour ce reportage. Par ailleurs, dans la ville de Beni, au nord Kivu, au moins 50 femmes apprennent à fabriquer du savon depuis le début de ces mois. Initiée par le centre d'apprentissage des métiers Kazimbele, cette formation vise à doter les apprenants, majoritairement composés de personnes déplacées, d'un métier en vue de leur autonomisation. Marc Marofimbo, reportage.
Ces personnes, dont 48 femmes et 2 hommes, sélectionnées pour la première édition de cette formation, proviennent des entités de la partie ouest du territoire de Beni, sous menace sécuritaire. Pour Espérance Maskavia, apprenante, c'est un métier pour la vie.
Ce métier va beaucoup nous aider, nous femmes. Quand nous allons vendre nos savons, nous ne manquerons pas de l'argent pour subvenir à nos besoins. Nous autres qui avons fui de Mahou, on n'avait rien comme métier. Déjà, les stress de la guerre prennent fin et nous avons déjà une bonne connaissance du métier.
Pour la responsable du centre d'apprentissage de métiers, c'est une manière de combattre la pauvreté et le chômage. Ange Bambou.
Nous demandons l'appui de tous pour la réussite de ce projet afin de chasser la pauvreté. On n'a pas besoin de nous embrouiller avec les cosinus, des sinus que nous ne rencontrerons nulle part dans la vie.
Signalons que cette première édition va durer 3 mois. La seconde, déjà programmée, va s'étendre aux entités du territoire de Beni. Ce projet du centre d'apprentissage des métiers Kazimbele bénéficie de l'appui financier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACR ainsi que l'ONG AVSI. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, élu en mars sur la promesse d'un changement profond, a annoncé hier dissoudre l'Assemblée nationale et fixer des élections législatives au 17 novembre prochain. Une décision qui n'a pas surpris la presse locale, c'est vendredi, qui en décrypte les tenants et les aboutissants.
L'invité.
Depuis 2 mois, l'accès à l'eau potable est devenu extrêmement limité dans le site des déplacés de Don Bosco au nord de la ville de Goma. Ceci expose les déplacés à un risque accru de contamination par le virus du Mpox déjà présent dans le site. Le président de ce site, qui abrite plus de 4000 ménages, soit environ 20 000 personnes, appelle à une intervention urgente. Sans eau potable en quantité suffisante, les déplacés ne sauront pas faire face à cette épidémie. Justin Kamana est l'invité dans cette édition. Il explique la situation actuelle dans son site, dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Justin Kamana, bonjour.
Bonjour.
Au niveau de votre camp de déplacés, vous déplorez l'insuffisance d'eau potable et les conséquences que cela peut avoir sur la vie des déplacés.
Depuis que nous sommes ici, nous avions une consommation normale de 120 mètres cubes chaque jour. Et les 120 mètres cubes étaient fournis par des partenaires, notamment Imegrarac 80 mètres cubes et aussi Caritas 40 mètres cubes. Il y a des mois que Imegrarac a fini son projet et qu'aujourd'hui nous sommes habités à un problème de manque d'eau parce que c'est Caritas qui a résisté jusqu'aujourd'hui avec les 40 mètres cubes qui sont vraiment insuffisantes. Et ça pose problème au niveau de l'hygiène, surtout des toilettes et l'eau de ménage. Et avec l'épidémie qui a surgi de Mpox, c'est vraiment un problème puisque au niveau du cas de Don Bosco, vous pouvez remarquer que il y a quelques cas même qui sont confirmés, ils ne sont pas nombreux, mais il y a des échantillons qui ont été confirmés. C'est vraiment un grand problème parce qu'avec la manque d'eau, nous n'avons pas moyen autre de faire l'hygiène des toilettes, mais aussi l'hygiène corporelle, ça dépend de l'eau. Avec ça, il s'ajoute aussi des toilettes qui sont pleines, qui ne sont pas vidées depuis le mois de février. Et que d'autres toilettes aussi se sont ajoutées. Sur 140 toilettes, nous avons au moins 60 portes qui sont fermées et que aussi les toilettes sont insuffisantes. Alors nous voyons qu'avec ces conditions, l'épidémie va s'étendre très facilement dans notre camp de déplacés.
En parlant des cas confirmés, vous n'avez pas les nombres exacts à la date d'aujourd'hui?
Les cas confirmés au niveau de chez nous, c'est 4. Mais il y a plusieurs cas qui sont en examen, bien sûr, et quelques-uns seront confirmés d'ici là. Et même aujourd'hui, le matin, nous avons remarqué qu'il y a des cas suspects qui sont en examen ici au poste de Don Bosco. C'est vraiment un grand souci avec le manque d'hygiène et la carence d'eau et même les toilettes qui sont devenues très limitées.
Et dans ces conditions, quelles sont les dispositions que vous prenez pour essayer d'assurer un peu les bonnes conditions hygiéniques au niveau de votre camp?
Nous avons Save the Children qui a recruté les relais communautaires pour sensibiliser la population. Mais aussi, il y a Hors de Relief aussi qui a recruté quelques relais communautaires pour faire la sensibilisation et voire même installer quelques points de lavage de mains. Ce sont ces deux organisations qui nous aident à sensibiliser les déplacés pour éviter l'épidémie de Mpox.
Les personnes qui sont confirmées et les contacts des malades, quelles sont les dispositions que vous avez ici pour limiter la propagation de la maladie?
Nous avons un partenaire au niveau de la santé qui est Save the Children, qui collabore avec le poste de santé du centre des jeunes de Don Bosco. Ils ont vraiment pris des mesures pour isoler les malades qui sont en contamination avec le virus d'Mpox. Et jusque-là, au niveau de la santé, nous n'avons pas un grand problème, mais les partenaires vraiment s'en occupent.
Si vous avez un déficit de 80 mètres cubes, qu'est-ce qu'on fait concrètement, par exemple pour les ménages qui cherchent de l'eau même pour préparer à manger?
Les déplacés se démènent pour vendre leur petit ration, pour trouver au moins 200 francs pour acheter l'eau dans les bornes fontaines dans la communauté.
Quelle demande adressez-vous aux autorités par rapport à cette difficulté que vous traversez ici?
Surtout à la zone de santé de Karisimbi, qui connaît nos problèmes au quotidien. Le MCZ doit vraiment s'impliquer pour que nous puissions avoir une quantité suffisante d'eau et aussi mobiliser les partenaires pour vider les toilettes qui nous causent vraiment l'insalubrité au niveau de Don Bosco, mais aussi amener les déplacés à prendre des mesures pour éviter cette épidémie de s'étendre au niveau du cas des déplacés, puisque ça va aller même au-delà dans la communauté.
Monsieur Justin Kamana, je rappelle que vous êtes président du déplacé du camp de Don Bosco. Merci.
Je vous remercie aussi.
C'était l'invité du journal qui répondait aux questions de Rosalie Zawadi. Par ici s'achève cette édition coordonnée par Jacques-Yves Molima Aouta et mise en onde par Pierre Diassinois. La présentation de Grâce Amzati Massanzi. Merci.